Scan Imo, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver toutes les semaines sur Radio Imo. Bienvenue pour notre 30e numéro de Scan Imo, le module audio qui décrypte l'actualité immobilière avec une pointe d'humeur et toujours avec une pincée d'humour. Enfin, on espère toujours. Je vous rappelle le concept de Scan Imo. Toutes les semaines, on vous informe des dernières actualités immobilières, des études exclusives. On rencontre des experts de l'immobilier, des intervenants qui vont vous donner des conseils pour vous faciliter votre métier d'agent immobilier. Bref, Scan Imo est le podcast qui donne des astuces pour faciliter votre prospection et le recrutement des vendeurs. Allez, sans transition, si je vous dis comment rendre heureux vos acheteurs et vendeurs en même temps, tout en assurant votre chiffre d'affaires de votre agence immobilière. Avez-vous une idée de quoi nous allons parler ?
Chris, on parle de quoi aujourd'hui ?
Eh bien, à la thématique du jour, les crédits immobiliers. Et oui, si votre acheteur obtient son crédit, votre vendeur est heureux et vu aussi par la même occasion. Malgré un contexte économique incertain, l'accession à la propriété reste toujours possible. En cette rentrée 2020, peu de banques ont modifié leur barème de taux qui reste donc globalement stable. En moyenne, ils sont actuellement de 1,10% sur 15 ans, 1,30% sur 20 ans et 1,55% sur 25 ans. Mais les meilleurs profils peuvent négocier. 0,75% sur 15 ans, 0,95% sur 20 ans et 1,15% sur 25 ans. Je sais, ça fait beaucoup de chiffres. Grâce à ces taux historiquement bas, le pouvoir d'achat immobilier des Français reste au beau fixe, 76 mètres carrés en moyenne avec une durée d'amortissement record en France en moins de 3 ans, selon Meilleurs Agents. Mais avec la crainte du chômage et les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière, les établissements bancaires ont durci leurs conditions d'octroi. Résultat, les refus de crédit sont en forte croissance. Mais qui sont les profils perdants ? On dénombre pas moins de 37% de primo-accédants avec un apport moyen de 6%, ce qui est insuffisant pour la plupart des banques, et 26% d'investisseurs locatifs. Mais ce n'est pas tout. Le contexte économique actuel renforce la frilosité des banques à prêter sans un apport conséquent. À ce jour, il faut présenter entre 10 et 20% d'apport pour obtenir un crédit immobilier. Et pour couronner le tout, il y a quelques semaines, lors de sa réunion mensuelle, le Haut Conseil de Stabilité Financière a réaffirmé ses recommandations du 20 décembre 2019 en matière d'octroi de crédit, soit un taux d'endettement inférieur à 33% et une durée de prêt limitée à 25 ans. Alors que la part des dossiers refusés a doublé cette année en 2020, elle atteint 10,7% contre 5,5% en 2019.
Oh là là !
De nombreux courtiers regrettent qu'il n'y ait pas eu d'assouplissement afin de laisser davantage de latitude aux banques d'apprécier le risque et de financer des acheteurs potentiels avec un reste à vivre suffisant. Les recommandations excluent aussi les acheteurs qui sont dans une optique d'investissement et qui ont représenté 27% des acheteurs en 2019, or 60% du parc locatif appartient à des bailleurs privés. Alors comment accompagner ces clients pour le financement de leurs projets immobiliers ? À qui s'adresser ? Est-ce que les banques vont se passer des courtiers ? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec notre expert.
L'invité du jour est...
Bruno Rouleau, vous êtes président de l'association professionnelle des intermédiaires en crédit qui regroupe les principales enseignes du marché. Il y en a environ plus de 3000 adhérents. Merci d'être parmi nous.
Bonjour Chris, merci de m'avoir invité.
Alors, question toute simple, est-il toujours possible d'emprunter d'ici la fin de l'année ?
Oui, il est toujours possible d'emprunter dans tous les cas, et notamment en cette période où les banques vont commencer à prévoir leur exercice de l'année 2021, puisqu'on sait qu'on a un délai à peu près de 3 mois pour pouvoir réaliser et déboucler une opération. Donc aujourd'hui, il est toujours possible d'emprunter. Par contre, ce n'est pas toujours aussi facile que ça ne l'a été. Ça, c'est vrai.
Pourquoi les banques sont-elles aussi sélectives depuis le confinement ?
Alors, sélectives dans 3 motifs principaux. Premièrement, parce que elles ont des autorités de contrôle qui les ont incitées à être beaucoup plus prudentes par rapport aux risques qu'elles pouvaient prendre sur les taux fixes. La deuxième chose, c'est qu'elles ont besoin aussi de se rassurer par rapport à une situation qui est très, très floue. Et on voit bien aujourd'hui avec les nouvelles définitions de consignes sanitaires qui rendent la visibilité très, très compliquée par rapport à la situation économique. Et puis, la troisième chose, c'est la montée du risque direct et indirect, c'est-à-dire des personnes qui, pour l'instant, ont été aidées dans le cadre des dispositions sociales et des dispositions de chômage partiel ou des choses comme ça, mais qui demain peut-être seront confrontés à des risques de défaillance de leur employeur. Donc les banques aujourd'hui sont assez frileuses, il faut le dire, et elles demandent à ce qu'il y ait plusieurs éléments nouveaux qui soient renforcés en ce qui concerne la solvabilité, les preuves de solvabilité et les projets qui sont proposés par les clients.
Notamment plus d'apports.
Alors, la question de l'apport est essentielle parce que, premièrement, et là souvent, on a un choc aujourd'hui, c'est que les clients qui étaient habitués à ce que les banques prêtent très très facilement pendant plusieurs années, s'étaient habitués à ce qu'on perde cette notion d'apport. Cette notion d'apport, elle a deux effets. Premièrement, l'impact, le premier, c'est pour le risque de la banque. C'est-à-dire que si jamais le client ne pouvait plus payer, il va falloir faire revendre l'actif, le logement. Et dans ces conditions-là, on va dépendre des conditions du marché. Donc aujourd'hui, on avait quand même plusieurs années d'euphorie. Il n'est pas dit que les prix, même si aujourd'hui, ça n'est pas encore vérifié et avéré, mais en tout état de cause, il n'est pas dit que les prix continuent d'être aussi bons. Donc, il pourrait y avoir un risque sur la créance de la banque. Et puis, deuxièmement, un risque qui est lié directement à cela sur l'endettement des ménages. C'est-à-dire que la personne, si jamais elle ne peut pas rembourser et que le prix de la vente ne couvre pas, elle reste quand même débitrice vis-à-vis de la banque et il va falloir trouver des solutions. Et quand on a perdu son emploi et qu'on est obligé de vendre sa maison ou son appartement, c'est vrai que c'est plus compliqué derrière. Donc, la notion d'apport est perturbante, mais elle est justifiée d'un point de vue économique et financier.
Alors du coup, comment les agents immobiliers peuvent accompagner leurs clients justement pour leur crédit immobilier? Quels conseils pour leur donner?
Alors, dans l'accompagnement, la notion d'accompagnement, il faut qu'ils fassent attention. Premièrement, il y a l'accompagnement sur le plan de la compétence juridique à le faire. C'est-à-dire qu'un agent immobilier n'a pas vocation à accompagner son client dans ses statuts, en tout cas dans l'exercice de sa profession, sur le projet immobilier. Il faut qu'il passe des compétences professionnelles pour pouvoir exercer une activité d'intermédiaire en opération de banque. Pour pouvoir le faire. Un certain nombre d'entre eux le font, d'autres se déchargent et renvoient sur les banques ou renvoient sur des courtiers. C'est ce qui se passe le plus souvent, mais voilà. Et
ils peuvent donner. Ouais. Bon, nous, ils peuvent quand même donner des conseils quand même.
Non. La notion de conseil est très très fortement encadrée par la loi. Hein. Une fois encore, bien évidemment. On est toujours à la limite dans ces conditions-là.
On n'a pas non plus. On ne va pas se fâcher, Bruno.
L'agent immobilier est pris entre deux feux, entre ses propres législations qui l'obligent à ne pas faire signer un mandat ou un compromis à quelqu'un qui pourrait pas s'embêter. Et en même temps, il est pris entre le feu de la réglementation sur le crédit, où il ne peut pas conférer des conseils si jamais il n'a pas la compétence juridique. Mais je vous rejoins donc pour prolonger le débat, c'est qu'effectivement, il faut qu'il fasse vraiment attention à ce que ses clients soit aujourd'hui dans des situations d'emploi qui soient en tout cas protectrices ou pérennes. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus que au niveau de son endettement immédiat ou futur, cela l'embarque dans une situation qui pourrait devenir compliquée. Et cette notion d'apport, voire aujourd'hui d'épargne résiduelle, c'est-à-dire de ce qui peut lui rester après l'argent qu'il met dans son apport personnel, pour pouvoir, on sait très bien, quand on achète un bien qui est en plus d'occasion, on peut avoir des tas d'autres frais, et donc il faut qu'il fasse attention à ce niveau-là, à ne pas emmener quelqu'un qui soit vraiment dans une situation trop trop limite par rapport à ça. D'où l'intérêt de passer par des intermédiaires professionnels.
Il y a certaines banques qui regardent effectivement les professions des emprunteurs. Il y a des professions en fait qu'il ne faut pas faire en ce moment ou...
En plus. Ça serait méchant et en plus ça serait discriminant, donc réprimé par la loi.
Je le sais, mais bon.
Et on sait très bien, vous et moi, qu'il y a des professions qui sont un peu plus sur la sellette en ce moment parce que beaucoup plus impactées par la situation sanitaire et sans doute économique. On va dire que les gens qui touchent à l'événementiel, les gens qui touchent au métier de la restauration, de l'hôtellerie, les gens qui touchent au tourisme, sont des secteurs d'activité qui sont très lourdement impactés, dont les représentations professionnelles ont d'ailleurs fait beaucoup, beaucoup de lobbying auprès de l'État pour être soulagées et supportées, parce que elles ont besoin d'un soutien fort pour passer cette étape-là. Pour les autres professions, on va dire que c'est très aléatoire, ça dépend exclusivement des cas particuliers. Et c'est la complexité de la situation actuelle, c'est qu'en fait, c'est en permanence du cas par cas. On ne peut pas dire que parce qu'on a un CDI sur 20 ans, bien sûr, c'est plus rapprochant et c'est plus rassurant que si jamais on est en CDD ou qu'il y en ait un des deux qui vient de passer sa période d'essai. Mais dans tous les cas de figure, on doit pouvoir simplement, c'est une question de bon sens et de logique, on ne va pas emmener quelqu'un dans une situation difficile.
Oui, je comprends tout à fait. Et on rajoute une couche avec le Haut Conseil Stabilité Financière qui maintient sa recommandation sans assouplissement d'ici fin 2019. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision?
Alors, d'accord, forcément non.
Oui, je mettais un petit peu de sel.
Vous attisez, vous jetez un petit peu d'huile sur le feu, mais ah oui. Je ne suis pas le seul. Les professionnels de l'immobilier eux-mêmes s'en émeuvent régulièrement. Et en ce qui concerne les professionnels de l'intermédiation du crédit, voire même certains banquiers aujourd'hui sont difficiles aussi parce qu'ils sont impactés par leurs propres clients. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec quand même quelques modulations. Premièrement, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Haut Conseil à la stabilité financière s'intéresse à la stabilité financière. Donc, on ne peut pas lui demander de prendre parti dans le cadre de l'activité, du soutien à l'activité économique, même si aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de contrepoids par rapport à cette situation-là. Et puis, le deuxième sujet, c'est que la notion de recommandation, pour moi, elle est complètement bafouée, puisque la gouverneure de la Banque de France et le ministre de l'Économie sont au Conseil de la stabilité financière. Et donc, quand on parle de recommandation et que derrière, c'est fortement appuyé par des notes internes, bien évidemment, on n'est plus dans la recommandation, mais dans le dictat. Après, le sujet, je le comprenais, en tout cas partiellement, au moment où les premières mesures ont été prises fin 2019. Il y avait surchauffe, il y avait besoin de faire attention. On y était sensible aussi, nous, intermédiaires. Aujourd'hui, le paradigme est totalement changé. On est dans une situation économique qui est quand même très soutenu, on est avec une incertitude sur l'avenir, avec une deuxième vague, on voit bien, sanitaire qui est compliquée. Donc, le sujet va plus être trop de savoir s'il faut protéger les banques et le système de l'endettement des ménages, mais plutôt de savoir comment on peut aider les gens à arriver sur l'accession au logement. Et là, pour le coup, je pense que ça devient presque dogmatique et il y a un moment où il va falloir passer à autre chose.
Ah, autre point, je ne vais pas vous l'apprendre, les agences bancaires ne sont plus trop rentables, des restrictions sont à attendre. D'ici les prochaines semaines, on peut se poser des questions, comment les courtiers et les banques vont collaborer ensemble ?
Alors, collaborer ensemble, forcément que ça va être très très important de prévoir ça. Alors, c'est pas une évidence immédiate parce que le monde bancaire vit une révolution, sa révolution. Une révolution à la fois organisationnelle, comme vous le disiez, les notions de réseau nécessitent aujourd'hui de revoir les choses. C'est très très, ça consomme beaucoup de capitaux propres, hein, de pouvoir travailler sur des agences, c'est des droits au bail, c'est des propriétés, c'est de l'informatique, c'est du personnel. Donc, il va falloir de ce côté-là que les banques révisent un petit peu leur modèle. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une pyramide sociale qui amène beaucoup de gens aujourd'hui à être en fin de carrière dans le monde bancaire et que ce renouvellement va passer aussi par une modification des compétences demandées aux effectifs. Et c'est toujours très compliqué, socialement parlant, de gérer ces mutations. Et puis, le troisième élément, c'est qu'on est installé durablement dans une situation où les taux bas ont fait baisser la rentabilité du monde bancaire et des opérations bancaires. Donc, on l'a bien vu depuis quelques années, les banques ont diversifié leurs produits. On a même des banques qui vendent des produits et des services annexes qui paraissent parfois un peu compliqués, ésotériques pour le profane, mais qui participent d'une rentabilité différente que celle simplement de la mise en place du crédit. Donc aujourd'hui, les banques sont dans cette mutation qui en plus est accélérée par la réglementation qui les saucissonne de plus en plus et qui s'empile, et par l'arrivée des nouvelles technologies qui les bouscule également. Donc la relation avec les courtiers va être une relation qui va être compliquée encore quelques mois parce qu'elles ont fait le plein de leur crédit et donc elles ont besoin de sursoir un petit peu à cette activité pour protéger le temps et le délai nécessaire pour la mutation. Mais derrière, le courtier qui saura s'adapter et qui va évoluer va rester un acteur important pour le banquier parce qu'il est un relais de proximité, il est un relais qui maîtrise la relation avec le client et qui a gagné de toute façon depuis maintenant une quinzaine d'années totalement la confiance du client. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir construire des projets et les accompagner dans la durée.
On sait que vous êtes important, bien évidemment, dans tout projet immobilier, mais est-ce que les banques peuvent-elles se passer des courtiers, justement ?
Il y a une réponse un peu lapidaire et qui n'est pas forcément à mon avantage, c'est qu'à la limite, j'ai été créé, moi, courtier, par les carences bancaires. Si le banquier avait continué à faire son travail à l'origine de proximité, de conseil, d'accompagnement des clients, le courtier n'aurait pas forcément vu le jour, hormis peut-être dans des comparateurs de conditions financières, mais c'est en tout état de cause par là. Là où le problème se pose, c'est que la banque a abandonné une partie de ce segment-là, et donc les courtiers se sont engouffrées dans cette brèche avec brio, puisqu'elles ont réussi à passer. La crise financière des subprimes est passée par là. Et aujourd'hui, le paysage du conseil aux particuliers et aux entreprises passe par les intermédiaires en qui ils ont plus confiance parce qu'ils savent que ce sont des pure players, hein, donc des gens qui vont exclusivement leur parler de leur projet. Et deuxièmement, ce sont des gens qui sont rémunérés au résultat. Donc, en tout état de cause, ça les rassure aussi sur l'intention et sur la volonté du courtier de les accompagner, de les faire aboutir dans leur projet. Mais oui, bien évidemment, elles pourraient s'en passer, sauf que aujourd'hui, le maître mot et le patron, c'est le client. Et le client, aujourd'hui, il a donné la main au courtier.
D'accord, vous êtes tenace, c'est bien, Bruno.
Ah, mais c'est non seulement tenace, mais je crois qu'il faut être lucide. Et ce n'est pas l'évolution des projets de migration de la banque qui va les aider pour l'instant à reprendre la main sur le client, puisqu'au contraire, on est plutôt sur une baisse des effectifs, une baisse des agences. Donc, le courtier, plus que jamais, va être l'interlocuteur de proximité.
Dernière question plutôt généraliste. Comment voyez-vous 2021 ?
Alors, compliqué. Je crois que tout le monde aimerait bien avoir une boule de cristal. Je suis par nature quelqu'un d'optimiste. Le réalisme va me rappeler, ça va beaucoup dépendre bien évidemment de l'évolution de la crise sanitaire. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a quand même une volonté de part et d'autre des pouvoirs publics et des acteurs de l'économie de se positionner en confiance. C'est pas une méthode couée, c'est, je pense qu'on a une nécessité. Et concernant l'immobilier, de toute façon, il y a des besoins primaires à satisfaire, donc il va falloir être là. Il va falloir que le marché se calme un petit peu en termes de prix. On n'a pas le temps de développer là pourquoi je suis encore plus remonté contre le HCSF, mais parce que pour moi, c'est une bulle spéculative.
Calmez-vous.
Mais en tout état de cause, non, je pense que ça va être une année qui va être une année de transition compliquée, mais il y aura quand même une activité qui va se porter. Moi, je m'attends à un calme qui est déjà amorcé, hein, parce que les très bons chiffres de l'année sont quand même beaucoup portés par l'inertie du premier semestre. Le deuxième semestre est plus compliqué pour tout le monde. Je ne parle même pas du neuf. Sur l'ancien aussi, ça commence à se tendre par un problème de raréfaction des biens aussi qu'on a déjà évoqué. Et puis, 2021 devait être une année où il va falloir beaucoup courber les chiffres. Mais je suis confiant par rapport à ce qui va se passer après, par contre.
Bon, du coup, on va garder cette note de confiance. Merci beaucoup, Bruno.
Scan Imo, c'est déjà fini ?
Encore merci pour toutes ces informations, Bruno Rollo. Maintenant, vous avez toutes les clés pour scanner ou plutôt accompagner vos clients ou donner des conseils pour leur demande de crédit immobilier. Sinon, pour votre culture IMO, surfez sur Wikimo Pro, le Mac Info Pro de meilleurs agents. On vous concocte des contenus hyper intéressants, effectivement, chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine aussi sur Radio IMO. Encore merci à tous.
Scan IMO, une émission présentée par Chris Mondet en partenariat avec Meilleurs Agents, numéro 1 des comparateurs d'agences.